C'est un plaisir d'être de retour à Genève et de vous revoir cette semaine. Je me régale des différents échanges avec les uns et les autres. Depuis que je suis rentré au Québec en 2016, je constate tout à nouveau que le sport qui fait vibrer les Québécois, c'est le hockey sur glace. C'est le sujet de conversation dans la belle province. Récemment, le meilleur hockeyeur des années 70-80 est décédé et il a eu droit à des funérailles nationales. Les Québécois aiment tellement leur équipe professionnelle, les Canadiens de Montréal, et la pression sur les joueurs est tellement forte pour gagner que beaucoup de joueurs préfèrent signer avec des équipes qui sont ailleurs, dans les autres provinces canadiennes ou aux États-Unis, puisque c'est la même ligue. Mais loin de toute cette pression, la famille Angers aime se retrouver l'hiver, le samedi matin, sur une patinoire extérieure, parfois à moins 25 degrés, avec des semelles chauffantes dans les patins, pour y faire quelques matchs de 2 contre 3. Vous l'avez compris, j'ai une famille minuscule, 3 enfants seulement. Donc nous ne pouvons pas, contrairement à la famille de Young, faire des matchs de 5 contre 6, en comptant les parents bien sûr. Mes 3 garçons sont très sportifs, 3 ados, ils raffolent du foot, du ski. Mon plus jeune est mordu de skateboard, ce qui contribue pas mal à développer ma vie de prière. Mais il y a un sport que Laura et moi ne sommes pas parvenus à faire aimer à nos garçons, et c'est la randonnée. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Contrairement au foot ou au hockey, où l'objectif est clair, quand tu marches en montagne, tu vises quoi ? Ben nous, on répond la vue. Le plaisir d'être ensemble, dans la nature, d'échanger, mais ça ne suffit pas. Du coup, si on veut les amener en rando, on doit inventer de nouveaux objectifs. Quand ils étaient plus petits, c'était facile. Pendant la rando, on va jouer à cache-cache, hein, donc l'objectif c'est de trouver la personne qui se cache. Ou si vous faites la rando, vous aurez droit à une glace après. Mais là, avec le temps, ça devient compliqué parce qu'ils ont appris à négocier. Du coup, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à « si vous acceptez de faire 7 randos, on n'en fera plus d'autres pendant très 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 longtemps. » Mais c'est contre-productif hein, au plan de la négociation pour nous, c'est terrible. Combien nous avons besoin d'un objectif clair pour avancer et combien il nous est facile, dans bien des domaines, de perdre de vue l'objectif premier. Au cours des prochaines minutes, nous allons nous remémorer l'objectif. L'objectif de quoi ? De tout. De toute la vie. Parce qu'il est tellement facile de le perdre de vue. Exode 32 à 34 nous rappelle que le but de l'être humain, c'est de rechercher la gloire de Dieu. C'est de connaître Dieu tel qu'il est vraiment, dans toute sa splendeur. C'est de le faire connaître autour de nous. C'est de jouir de la véritable présence de ce Dieu glorieux. Quelle horreur quand nous perdons de vue cet objectif, comme ce fut le cas des Israélites dans notre texte. Revivons ensemble les événements étonnants qui nous sont rapportés dans ce passage. Revivons l'horreur, puis le soulagement, deux étapes majeures, puisqu'on peut diviser notre texte en deux grandes parties. Première partie, la rébellion du peuple et ses conséquences de 32.1 à 33.6, c'est l'horreur. Deuxième grande partie, l'intercession de Moïse et ses résultats de 33.7 à la fin, soupir de soulagement. Première grande partie, l'horreur, la rébellion du peuple et ses conséquences de 32.1 à 33.6 et le drame se déroule en 6 petites sections. La scène qui déclenche toute l'intrigue des chapitres 32 à 34, se produit dans les 6 premiers versets du chapitre 32, le veau d'or. Verset 1, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, se présentèrent et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Pendant des années, ici à l'IBG, un professeur d'herméneutique, que je connais très bien, avait l'habitude de se mettre debout en classe, se mettre debout sur une table et de s'écrier en plein cours « Contexte, contexte, contexte ». Il y a des témoins oculaires ici ? Ça, cela a marqué les esprits. Eh bien, la scène à laquelle nous venons d'assister dans les 6 premiers versets prend tout son relief quand on tient compte du contexte du livre de l'Exode, et l'occasion est rêvée, puisqu'on a en quelques jours une série sur l'ensemble du livre. Dans l'intervention précédente, Mike a prêché sur Exode 19 à 24, le cœur du livre de l'Exode. L'alliance est conclue au Sinaï entre Dieu et son peuple. Et c'est à la fin du texte de Mike, au chapitre 24, que l'action se déplace en altitude. Moïse, les deux fils d'Aaron et 70 des anciens d'Israël montent sur la montagne et ont une vision glorieuse du Dieu d'Israël alors que le reste du peuple doit demeurer en bas. Puis ils mangent et boivent pour célébrer la ratification de l'alliance. Ensuite, Dieu appelle Moïse à monter encore plus haut, plus près de lui que les anciens. Et au début de notre texte, au chapitre 32, Moïse n'est toujours pas redescendu. Au plus proche de Dieu, au sein de la nuée, Moïse doit recevoir les tables de pierre, mais aussi toutes sortes d'instructions sur le culte dans le tabernacle, sur le sacerdoce, les prêtres, les grands prêtres, le grand prêtre. Tout ceci est détaillé dans les chapitres suivant le texte de Mike, donc les chapitres 25 à 31. Florent va nous en parler demain. Il y aura un genre de flashback et je ne veux pas jouer dans ces plates-bandes. Sinon pour dire que le but de l'Alliance, c'est que l'Éternel habite au milieu de son peuple dans le tabernacle. Eh bien, notre texte n'a de sens qu'à la lumière de ce contexte. Donc, à la fin du chapitre 24, Moïse monte sur la montagne avec Josué, son assistant, qui lui ne monte pas aussi haut que Moïse. Ceci après avoir pris soin d'indiquer aux anciens du peuple tout en bas cette fois, « Les gars, attendez-nous ici. S'il y a le moindre problème, je vous donne deux numéros de portable. Celui d'Aaron et celui de Hur, et c'est surtout Aaron qui nous intéresse ici. » Moïse demeurera sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et les Israélites savent, en partie en tout cas, ce qui s'y passe, puisque la gloire de l'Éternel est aux yeux des Israélites restés en bas, fin du chapitre 24, comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Donc ça bouge là-haut. Il se passe quelque chose de très fort. Frères et sœurs, contexte, contexte, contexte. Confectionner un veau d'or dans ce contexte, c'est comme commettre l'adultère pendant la nuit de noces. La métaphore n'est pas de moi, elle est percutante. On a eu la cérémonie de l'Alliance, le repas festif avec les anciens, et le peuple est déjà prêt à tout gâcher. Pourtant, il s'était engagé, on ne peut plus clairement, à 3 reprises. Par exemple, en 24:7, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Alors pourquoi une désobéissance aussi flagrante et indécente? Le texte dit simplement, au verset 1, que le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Simple impatience? Il faut sans doute imaginer plutôt que la crainte s'est emparé du peuple. Moïse est-il toujours en vie? Or, que deviendra le peuple sans Moïse? Qui nous conduira dans le pays promis? La sortie d'Égypte, c'était lui, d'après la fin du verset 1, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Qui nous conduira dans le pays promis maintenant que c'est silence radio? Qu'on n'entend plus parler de lui. Autrement dit, le peuple semble avoir vécu un moment de panique, ne sachant pas qui allait dorénavant le protéger et le guider. N'est-ce pas dans des moments d'insécurité, de doute face à l'inconnu, que nous sommes le plus portés à chercher ailleurs qu'en Dieu le réconfort, la sécurité, la protection? L'idolâtrie n'apparaît pas par hasard, elle ne sort pas de nulle part. Souvent, elle se nourrit dans nos besoins légitimes. Combien il nous est alors difficile de vivre par la foi, c'est-à-dire d'attendre. D'attendre que Dieu nous donne des indications claires pour les prochaines étapes. D'attendre que lui réponde à sa manière à nos besoins. Ce dont le peuple a besoin ici, c'est de l'assurance, de la présence protectrice de Dieu, ce qui est légitime. Mais le moyen retenu pour obtenir cette assurance est une catastrophe totale. Quelle ironie! Alors même que Dieu est en train de révéler à Moïse le détail, les modalités de sa résidence bienveillante au milieu du peuple, dans le tabernacle, pendant ce temps, le peuple imagine une pseudo-présence de Dieu par l'entremise d'un veau d'or. Et une certaine confusion transparaît dans le texte quant à l'identité du Dieu ou des dieux envisagés. Le peuple demande à Aaron, « Fais-nous des dieux ». Verset 1, Aaron fabrique un veau en métal fondu. Verset 4, peut-être plutôt un taureau ou un taurillon, peu importe. Le peuple s'exclame au verset 4, « Voici tes dieux » au pluriel. Et Aaron, verset 5, annonce une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors, on a du mal à suivre tout ça. Ce qu'il faut sans doute comprendre, c'est que l'idole est censée représenter concrètement le Dieu invisible, comme c'était souvent le cas dans les religions de l'époque. Pour les Israélites, c'est l'Éternel. L'idole était censée manifester sa présence sur terre parmi le peuple. Autrement dit, le deuxième des 10 commandements est enfreint, selon lequel le peuple n'est pas censé se fabriquer d'idole, de représentation matérielle de la divinité, car la distinction doit toujours être maintenue entre le Créateur et sa création. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu des chapitres 32 à 34. Comment l'Éternel peut-il être présent avec son peuple ? En outre, le pluriel des dieux, semble suggérer que le peuple est ouvert à ce que l'idole représente une pluralité de dieux, ce qui enfreint le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Même si certains détails de la confusion ambiante nous échappent, ce qui est d'ailleurs le propre de la confusion, c'est pas clair. Une chose est claire, les Israélites se méprennent sur la nature de Dieu, sur son caractère, sur sa personne. Ils ne considèrent pas Dieu tel qu'il est vraiment. Ils remplacent sa gloire par la représentation d'un animal. Ensuite, ce qui étonne dans les 6 premiers versets, ce sont les similitudes avec le seul vrai Dieu et le seul culte légitime. Autrement dit, nous avons affaire à la perversion et au détournement de l'adoration qui plaît au Seigneur. Les dieux sont censés marcher devant le peuple, verset 1, ce qui est le rôle de l'Éternel en réalité. Ensuite, le don d'anneaux d'or par les Israélites anticipe le don d'offrandes volontaires pour la construction du tabernacle, au chapitre 35. Au verset 4, lorsque les gens s'écrient « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte », nous sommes devant une parodie de l'affirmation qui précède le décalogue en Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ce n'est pas tout. Au verset 5, Aaron bâtit un autel et il annonce une fête en l'honneur de l'Éternel le lendemain, ce qui confirme le lien fort qui existe entre l'idole et l'Éternel, au moins dans l'esprit d'Aaron. Le lendemain, verset 6, on se lève de bon matin et on offre des holocaustes et des sacrifices de communion. Tout ce rituel ramène le lecteur au chapitre 24. Contexte, contexte, contexte. Le jour de la cérémonie d'inauguration de l'Alliance, Moïse s'était levé de bon matin, il avait bâti un autel au pied de la montagne, puis on avait offert des holocaustes et des sacrifices de communion à l'Éternel. Après ça, Moïse, les fils d'Aaron et les 70 anciens étaient montés sur la montagne où ils avaient mangé et bu. Or, en Exode 32, dans notre passage, la fête dérape. À la fin du verset 6, on lit que les Israélites se levèrent pour se divertir, ce qui pourrait laisser entendre que l'immoralité sexuelle se mêle au culte qui vient d'être paganisé. Le verbe hébreu ne l'indique pas clairement. Mais en Exode 32, 25, on lit que le peuple était dans le désordre, ce qui pourrait aussi avoir des connotations sexuelles. En un mot, on a affaire à une spiritualité à la carte, faite de demi-vérité. On garde ce qui nous plaît, on modifie ce qui ne fait pas notre affaire, on ajoute quelques nouveautés. Or, Dieu veut habiter au milieu des siens à sa manière. C'est lui qui établit les règles du jeu. C'est lui qui procure les instructions à suivre minutieusement. Nous arrive-t-il, chers amis, d'adapter les vérités bibliques pour adorer Dieu à notre sauce? De nous satisfaire de demi-vérités, saupoudrées d'ajouts de notre cru. Ce qui nous amène à la deuxième section, le verdict de Dieu, les versets 7 à 10. Moïse n'a pas assisté à la scène désolante, mais l'Éternel, lui, a tout vu. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Alors ici, l'Éternel prend ses distances vis-à-vis du peuple. Il dit à Moïse, « ton peuple. » Puis au verset 8, l'Éternel décrit ce qui s'est passé. Vient au verset 9 le diagnostic, quelle est la racine du problème? Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » C'est la première mention de cette expression dans l'Ancien Testament, mais pas la dernière. L'image provient du monde animal comme une bête résistante, récalcitrante, qui raidit sa nuque pour éviter qu'on installe le joug, comme une bête qui refuse d'être dirigée. Le peuple est rebelle, son cœur est endurci. Voilà ce qui résume sa condition. Du coup, quel est le verdict divin? Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Laisse-moi. Dieu demande à Moïse de ne pas s'interposer et de rentrer au camp, car la juste colère divine est sur le point de s'enflammer. En un mot, Dieu s'apprête à annuler l'alliance et c'est son droit puisqu'elle vient d'être rompue par le peuple. Dieu est prêt à exterminer son peuple, ce qui rappelle le déluge. Et comme Dieu avait suscité une nouvelle humanité par Noé, il propose ici qu'un nouveau peuple apparaisse par Moïse. Moïse deviendrait ainsi le nouvel Abraham, le nouveau père de la nation. Quelle proposition! Et dans le refus de Moïse, quelle humilité! Voilà un homme qui ne cherche pas ses intérêts propres, mais dont le cœur bat pour le peuple. On le verra dans la suite. Qu'en est-il de nous, responsables chrétiens? Quand j'ai le choix entre le bien de l'Église et mes ambitions personnelles, qu'est-ce que je privilégie? Il est parfois tentant de quitter le navire quand la pression monte et que l'épreuve du ministère devient difficile à supporter. Moïse vient d'entendre l'Éternel lui rapporter l'apostasie du peuple avant de lui proposer le genre de promotion qui ne se présente pas deux fois dans une carrière. Mais Moïse tient bon, il passe le test. Troisième section, le peuple épargné, versets 11 à 14. Moïse refuse de laisser l'Éternel, de lui laisser en quelque sorte le champ libre pour qu'il déverse sa colère destructrice. Au contraire, il se tient sur la brèche, il s'interpose, il plaide en faveur du peuple. Ou est-ce vraiment en faveur du peuple seulement qu'il plaide? On pourrait méditer longuement sur la prière de Moïse et en tirer des leçons puissantes pour notre vie de prière. Verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Moïse corrige à la fois l'Éternel et le peuple. D'abord l'Éternel quand il dit « ton peuple ». C'est ton peuple, Éternel. Au verset 7, l'Éternel avait dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Le peuple est ici comme une patate chaude qu'on se refile. Non, non, c'est ton peuple. Non, c'est le tien. Mais surtout, Moïse corrige le peuple et remet les pendules à l'heure. Quand il dit à Dieu, pourquoi frapper de ta colère ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Éternel, on parle ici du peuple qui t'appartient et que tu as libéré d'Égypte. Le plaidoyer se poursuit au verset 12. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Moïse développe ici un argument missionnaire. Éternel, si tu concrétises ton projet de destruction, ton honneur sera entaché aux yeux des Égyptiens. Et c'est un argument de poids, car un refrain récurrent dans l'Exode, alors que se déroulent les plaies, comme on l'a vu avec Matthieu, c'est que Dieu agit pour que les Égyptiens reconnaissent qu'il est l'Éternel. Toujours au verset 12, « Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple, ou renonce à envoyer le malheur à ton peuple avec la semeur. » Renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Verset 13, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ils en hériteront pour toujours. » En d'autres termes, Moïse plaide en faveur du peuple, non pas en le défendant, non pas en excusant la faute du peuple, il plaide en faveur du peuple en plaidant en faveur de l'Éternel. Éternel, renonce à ce malheur, à cette destruction, pour honorer ton serment et tes promesses à Abraham. Voilà une clé pour la prière et l'intercession en général. Moïse supplie Dieu de suivre son plan. Et il renonce à ses intérêts propres pour que l'honneur de l'Éternel soit assuré. Résultat, verset 14, « Et l'Éternel regretta ou renonça au malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » Touché par l'intercession de Moïse, Dieu renonce à exterminer le peuple. Ce qui ne veut pas dire que Dieu voulait autre chose que ce qu'il fera finalement. Ou que Moïse aurait, pour ainsi dire, converti Dieu à la grâce. Dans le mystère de sa souveraineté et de sa providence, Dieu voulait faire grâce au peuple rebelle, car il est un Dieu de grâce. Et il voulait aussi que Moïse intercède passionnément pour l'honneur de l'Éternel et la survie du peuple, et ça ne fait que commencer. Alors si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, ne venez pas me voir. Allez voir M. Blocher. Mais en fait, ce n'est pas une blague. Allez voir son article en ligne qui s'intitule « Pour une théologie biblique de la prière ». Ça m'a vraiment aidé sur ces questions de prière. La part de Dieu, la nôtre, etc. Nous passons maintenant à la quatrième petite section, le jugement immédiat dans les versets 15 à 29. Je résume par manque de temps. Moïse descend de la montagne avec Josué, Il porte les deux tables du témoignage, écrites par Dieu lui-même, qui contiennent les 10 commandements. Quand Moïse voit de ses propres yeux ce que l'Éternel lui a décrit, sa colère s'enflamme. Oui, Moïse réagit comme Dieu avait réagi. Il s'agit d'une sainte colère. Il jette les tablettes par terre, elles se brisent, ce qui est symbolique. L'alliance est rompue. Car le peuple n'a pas tenu ses engagements. Moïse fait brûler l'idole, il la réduit en poussière, qu'il éparpille à la surface de l'eau, qu'il fait boire aux Israélites. Tout ceci signifie la destruction totale de l'idole. Puis à partir du verset 21, Moïse demande des explications à Aaron. « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Alors Aaron esquive toute responsabilité, c'en est désolant, on ne sait pas trop si on est censé rire ou pleurer en lisant ça. La déclaration est tragicomique, verset 24, « Ils m'ont donné l'or, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Quelle absurdité. Mais Aaron, j'ai pas le temps là. Moïse a d'autres chats à fouetter. Il doit mettre fin au désordre dans lequel se trouve le peuple à partir du verset 25. Au plan moral, le peuple est devenu incontrôlable et risque d'être la risée de ses ennemis. Alors pour arrêter l'hémorragie au moins, Moïse lance un appel auquel les Lévites répondent présents. Par la bouche de Moïse, l'Éternel lui-même confie à ses Lévites loyaux une mission de jugement immédiat. Ce jour-là, ils mettent à mort 3000 hommes. Cinquième section, les vœux de Moïse, de 30 à 35. Verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » En effet, le péché du peuple n'a pas été expié jusqu'à maintenant. Le pardon n'a pas été accordé, même si Dieu a consenti à ne pas exterminer son peuple. Moïse exprime à l'Éternel des vœux précis au verset 32, c'est son désir profond, « Pardonne maintenant leur péché !» Mais même en le demandant, Moïse se rend compte que l'exaucement est loin d'être assuré. Toujours au verset 32, « Sinon, je t'en prie, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il s'agit du registre contenant les noms de ceux qui appartiennent à l'Éternel. Alors certains pensent que Moïse offre ici de subir le jugement ultime à la place du peuple, en substitut. Ce n'est pas impossible. Mais le texte ne l'indique pas clairement. Il semble plutôt que Moïse exprime toute l'étendue de sa solidarité avec le peuple. Si tu ne pardonnes pas au peuple et si tu effaces les Israélites du registre céleste, efface aussi mon nom. Je suis avec eux. À la vie, à la mort. Soit nous t'appartenons tous et tous nos noms figurent dans le registre céleste, soit aucun d'entre nous ne t'appartient, moi y compris. Mais je refuse tout traitement de faveur. Autrement dit, Moïse ne proposerait pas de mourir pour le peuple, mais avec le peuple. Si jamais le pardon n'était pas une option sur la table. Quel que soit le détail de l'interprétation retenue, Moïse préfigure ici notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'identifiera pleinement au peuple de Dieu et dans son cas, il le fera clairement au point de mourir à la place des coupables. Avec les deux lectures, Moïse préfigure Christ. Quoi qu'il en soit, l'Éternel refuse. Donc de toute façon, ça ne passe pas. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Chacun est responsable pour lui-même et chacun doit vivre ou mourir d'ailleurs avec les conséquences de ses actes. » Dieu se réserve aussi le droit, dans les versets 34 et 35, de juger de nouveau le peuple pour la rébellion du veau d'or. Maintenant, j'aimerais canaliser toute la suite de notre méditation. Moïse a demandé que le peuple ne soit pas exterminé. C'est bon, c'est accordé. Moïse a demandé que le peuple soit pardonné. Ça n'est pas encore accordé. Et il reste un élément manquant, la présence de l'Éternel avec son peuple. C'est surtout ce troisième élément, la présence divine, qui nous servira de fil rouge pour parcourir toute la suite de notre texte. L'Éternel poursuit, verset 34, « Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit, voici que mon ange marchera devant toi. » Ok. Donc, notre thématique de la présence de l'Éternel émerge ici. Soyons bien attentifs à son développement. C'est un peu subtil. C'est comme une petite boule de neige qui va devenir immense, pardon pour l'image canadienne, hein, surtout à cette période de l'année. Dieu dit à Moïse, « Conduis le peuple vers le pays promis. Ma présence, c'est via mon ange, un messager qui certes représente l'Éternel, mais apparemment de façon assez limitée. Il guidera, protégera le peuple en mouvement, mais il n'assurera pas l'habitation permanente de l'Éternel au milieu du peuple. Et en plus, ma présence, c'est pour toi seul, Moïse, pas pour l'ensemble du peuple. Voici que mon ange marchera devant toi. » Enfin, une certaine distance est maintenue. L'ange sera devant toi. Maintenant, la sixième et dernière section de notre première grande partie, l'absence tragique, chapitre 33, les versets 1 à 6. Verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. » Ok. Et la présence de l'Éternel dans tout ça, c'est le fil rouge. Verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, etc. » Verset 3, « Monte vers un pays découlant de lait et de miel. » Je m'arrête là. S'agissant de la présence de Dieu, c'est comme en 32-34, un ange devant Moïse. Ça se limite à ça. Et là, ce qui était implicite devient explicite. Un peu comme quand un médecin tournait poliment autour du pot avant de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire clairement ce qui vous attend. Verset 3, toujours. « Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Devant Moïse, via mon ange, oui. Au milieu du peuple, surtout pas. » Et c'est du tabernacle dont il est question ici. La résidence de Dieu au milieu du peuple, c'est la tente de la rencontre. Pourquoi pas? C'est trop dangereux. L'esprit rebelle du peuple, sa nuque raide, à proximité de ma sainteté, ça va mal finir. Retour à la case départ, au scénario initial de l'extermination. Comme le dit un commentateur, c'est un peu comme jouer avec les câbles électriques d'une centrale à haute tension quand vous n'êtes clairement pas qualifié pour le faire. Le problème n'est pas que Dieu est imprévisible et que sa colère serait arbitraire. Au contraire, le problème est que le résultat catastrophique est prévisible. Il y a enfin quelques lignes encourageantes du côté du peuple dans les versets 4 à 6. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Devant l'annonce de l'absence de l'Éternel, le peuple est triste. Il est en deuil. Quelle ironie! Après avoir fourni les anneaux d'or pour la confection de l'idole, les Israélites se dépouillent maintenant des ornements qui leur restent. C'est un premier signe de repentance. Et cela m'interpelle, frères et sœurs, à quel point désirons-nous la présence de Dieu parmi nous? Parce que même l'Israël rebelle de notre texte avait compris que toutes les bénédictions de l'Éternel sans l'Éternel, ça ne sert absolument à rien. Même un pays découlant de lait et de miel, verset 3, perd tout son attrait quand celui qui nous le donne n'est pas avec nous. Maintenant, nous sommes suspendus à la décision de l'Éternel qui vient de dire au verset 5, « Je verrai ce que je vais te faire. Nous arrivons à la deuxième grande partie du texte et nous allons accélérer, nous passons à cinquième vitesse parce qu'on sait ce qu'on cherche. Que cherchons-nous ? Le pardon et la présence de Dieu. Deuxième étape, le soulagement, l'intercession de Moïse et ses résultats de 33:7 à la fin. Pour montrer au lecteur le CV impressionnant de Moïse en tant qu'intercesseur, nous avons d'abord une première parenthèse, il y en aura une deuxième à la toute fin du chapitre 34, première parenthèse sur l'intimité de Moïse avec Dieu dans les versets 7 à 11. Ici, on quitte l'intrigue qui est en train de se dérouler sous nos yeux pour assister plutôt à une scène typique, à une scène récurrente pendant la période post-Égypte et pré-tabernacle. Moïse avait érigé une autre tente de la rencontre temporaire. Il ne s'agit pas du tabernacle ici. Une autre tente de la rencontre hors du camp, à quelques distances, verset 7, pour y consulter l'Éternel. Encore une fois, la notion de distance est significative. Verset 11, l'Éternel y parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'expression « face à face » ne suggère pas une dimension visuelle, mais plutôt une dimension très personnelle. Je pense qu'on a l'homme de la situation pour jouer le rôle de médiateur. Ce qui nous amène au long dialogue entre Moïse et Dieu qui s'étend jusqu'à la fin du chapitre 34, pratiquement, donc de 33:12 à 34:33, et qui semble débuter alors que Moïse se trouve dans cette tente temporaire. Dans ce long dialogue, Moïse présente quatre requêtes à Dieu, chacune des requêtes prenant appui sur la précédente. Première requête de Moïse, versets 12 et 13. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » Alors Moïse laisse entendre qu'il n'est pas vraiment satisfait de cette modalité angélique. D'une part, il observe, tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Hein, tu as mentionné un ange devant moi, mais personne avec moi. Ensuite, Moïse va plus loin. Il rappelle à Dieu qu'ils ont une relation de grande proximité. Dieu connaît Moïse par son nom, une manière de dire qu'il le connaît intimement, et Moïse a obtenu la faveur de l'Éternel. Dieu lui est clairement favorable. Et d'ailleurs, Moïse dit vouloir connaître Dieu et ses plans encore davantage. Ce sera d'ailleurs le cas d'ici la fin de notre récit. Eh bien, si la proximité dont jouit Moïse vis-à-vis de l'Éternel pouvait permettre, de quelque manière, d'améliorer cette modalité angélique, de la bonifier, comme on dit tout le temps au Québec. Et si, de surcroît, une modalité bonifiée pouvait profiter à l'ensemble du peuple, alors là, ce serait top. D'où la fin du verset 13. « Vois, cette nation est ton peuple. » Et le mot « nation », assez rare, renvoie à la nation sainte d'Exode 19:6, nation sainte qui a pour vocation de représenter Dieu parmi tous les peuples. Donc, une fois de plus, Moïse en appelle au projet missionnaire de Dieu, éternel, si je puis me permettre. Il me semble, à mon humble avis, que ce que tu as annoncé jusqu'à maintenant n'est pas optimal pour l'accomplissement de ton projet missionnaire. Première réponse de Dieu, verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La progression commence, l'effet boule de neige, préparez-vous. Dieu est prêt à revoir la modalité angélique et à venir personnellement. Littéralement, on lit dans l'hébreu, « Ma face marchera. » Alors les mots « avec toi » ne sont pas dans le texte original. Néanmoins, c'est une progression significative. On est passé de l'ange à la face de l'Éternel. Mais Moïse reste le seul bénéficiaire. Je te donnerai du repos dans le pays promis. Deuxième requête de Moïse, versets 15 et 16. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, sous-entendu avec nous, littéralement c'est, si ta face ne marche pas, ne nous fais pas monter d'ici. Alors le verset 15 n'ajoute pas grand-chose, mais le verset clé qui clarifie les choses, c'est le verset 16. Verset 16, « À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple, ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'expression déterminante en hébreu qui n'intervenait pas dans les versets précédents, c'est « avec nous » qui évoque le tabernacle. Dieu sera avec nous si la tente de la rencontre est avec nous. Et le raisonnement de Moïse est le suivant. La véritable marque de ta faveur pour moi et pour ton peuple, au passage, Moïse refuse d'oublier le peuple, c'est que tu acceptes de marcher avec nous. Et en plus, seule ta présence parmi nous pourra nous distinguer des autres peuples. Encore une fois, c'est l'argument missionnaire. Seigneur, si tu viens avec nous, alors seulement tu pourras accomplir ton projet d'atteindre par nous tous les peuples de la terre. En bref, Moïse refuse d'être le seul parmi le peuple à jouir de la présence de Dieu et il refuse qu'Israël soit le seul peuple à jouir de la présence de Dieu. Pour atteindre les autres peuples, cette présence doit d'abord se manifester parmi les Israélites. Deuxième réponse de Dieu, aussi brève qu'extraordinaire, verset 17, « L'Éternel dit à Moïse, préparez-vous, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Autrement dit, c'est « oui ». Oui sur toute la ligne. Oui, Dieu accepte de venir personnellement avec son peuple. Oui, la construction du tabernacle peut avoir lieu. Si l'argumentaire de Moïse est irrésistible aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il a pour origine la pensée de Dieu. Moïse a déployé ses talents de fin négociateur pour convaincre Dieu que son plan est bon. Et pourtant, si vous avez bien suivi l'évolution du récit, il y a un problème qui n'est toujours pas réglé. J'imagine un peu la réaction de Moïse. Génial ! Quelle bonne nouvelle ! Un instant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Parce que Dieu n'a toujours pas indiqué clairement qu'il pardonnait au peuple, donc la colère de Dieu pourrait de nouveau être provoquée. Troisième requête de Moïse, verset 18, la plus connue. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Moïse a déjà eu droit à des manifestations glorieuses de Dieu, mais ici, il semble vouloir voir la gloire de Dieu sur la face de Dieu, ce qui ne s'est jamais produit. Qu'est-ce qui motive cette requête ? Sans doute plusieurs facteurs, mais je pense que Moïse a notamment besoin d'être rassuré. Parce que la proximité annoncée entre l'Éternel qui est saint et glorieux et le peuple qui a la nuque raide pourrait s'avérer désastreuse et explosive. Troisième réponse de Dieu à partir du verset 19, l'Éternel répondit « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » En d'autres termes, tu veux voir ma gloire, d'accord, mais cette vision sera nécessairement très limitée. Voir ma face, me voir directement et pleinement, c'est impossible. Mais je peux te montrer une facette de ma gloire éclatante, par derrière, de dos. Un aspect de ma gloire dont le peuple et toi avaient vraiment besoin, ma bonté. Comment cette révélation de la gloire de Dieu se déroulera-t-elle ? Verset 21, l'Éternel dit « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Imaginez la scène. Protégé de l'éclat éblouissant de la gloire de Dieu par la main de Dieu. Au début du chapitre 34, l'Éternel demande à Moïse de tailler deux tables de pierre et de monter seul sur le mont Sinaï. Cette révélation culminante est réservée à Moïse seul, et donc il s'exécute. Au final, c'est surtout par les mots, par la parole que l'Éternel se révélera, qu'il se dévoile ici. Reprenons au verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Voilà l'un des textes les plus importants de toute l'Écriture à propos du caractère de Dieu. Texte d'ailleurs repris à profusion dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui ressort le plus de ce passage ? La grâce de Dieu, sa bienveillance, sa fidélité dans le contexte de l'Alliance, son pardon, le voilà, le pardon qu'on attendait. Sans oublier le rappel qu'il punit les fautes. Donc, grâce et justice, avec un accent délibéré dans les circonstances, sur la grâce. Chers amis, le facteur décisif dans le dénouement heureux de notre récit, ce n'est pas la repentance embryonnaire du peuple. Et ce n'est même pas l'intercession de Moïse. Le facteur décisif, c'est plutôt la nature et le caractère de Dieu. Quatrième requête de Moïse, verset 8. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous. » Et l'expression hébraïque est encore plus forte que précédemment. Ce n'est plus seulement avec nous, mais au milieu de nous. Je serais porté à commencer une nouvelle phrase au milieu du verset 9, comme dans certaines versions, ce qui donnerait à peu près ceci. « Puisque c'est un peuple à la nuque raide, puisque c'est un peuple à la nuque raide, veuille pardonner notre faute et notre péché et faire de nous ton héritage. » Moïse a compris que la nuque raide du peuple était une réalité à intégrer et qu'au vu de cette tendance à la rébellion, la seule manière de vivre avec Dieu, de l'avoir au milieu de nous, c'est en implorant son pardon. Quatrième réponse de Dieu. À partir du verset 10, l'Éternel dit « Voici que je conclue moi-même une alliance. » Et Dieu accepte de rétablir et de renouveler l'alliance que le peuple a rompue. Encore une fois, l'objectif est missionnaire. Toujours au verset 10, « Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. » Et ainsi de suite. Et dans les versets 11 à 26, Dieu réitère certaines des instructions de l'Alliance originelle, notamment celle qui souligne l'importance de la loyauté au vu de ce qui vient de se passer et le refus de l'idolâtrie. Puis au verset 28, le dénouement. L'Alliance est renouvelée et Moïse redescend. Mais on ne sort pas indemne d'une telle révélation du nom de l'Éternel. Versets 29 à 33, le visage de Moïse rayonne. Il doit même mettre un voile sur son visage. Et notre texte se termine par une seconde parenthèse sur l'intimité de Moïse avec Dieu dans les deux derniers versets, 34 et 35. Comme pour la première parenthèse, on s'éloigne ici de l'action immédiate et on découvre une scène typique et récurrente que je vous laisse relire. Voilà, nous venons de revivre l'horreur puis le soulagement. Si je devais résumer le message central de nos trois chapitres en une seule phrase, je dirais ceci. Devant une rébellion indécente, Dieu accepte de révéler sa grâce et de vivre au milieu de son peuple. Devant une rébellion indécente, Dieu accepte de révéler sa grâce et de vivre au milieu de son peuple. Mais il nous reste une toute petite question à aborder. Comment nous approprier tout cela à la lumière de la nouvelle alliance ? Quelques pistes de réflexion, comme dirait Mike. En Exode 34, l'histoire se termine bien et nous en sommes soulagés. Mais notre enthousiasme n'est pas total. Alors, c'est peut-être mon petit côté pessimiste, hein, je suis peut-être porté à voir le verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. certaines tensions n'ont pas été complètement résolues. Le peuple est porté au mal, il a la nuque raide. Ce constat reste d'actualité. C'est une maladie incurable, on est d'accord. D'ailleurs, en 1 Roi 12-28, le roi Jéroboam fera fabriquer 2 veaux d'or et il dira au peuple Israël, « Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Ça vous dit quelque chose? L'histoire se répète. Ensuite, en Exode 33 et 34, le pardon est accordé sur la base du caractère de Dieu qui est plein de compassion et de grâce. Mais le péché du peuple n'est toujours pas expié. Or, en Exode 34, 7, l'Éternel précise qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Qu'adviendra-t-il de la justice de Dieu? Et une dernière tension, dans notre texte, Moïse brille, littéralement d'ailleurs, hein, son visage brille. Mais par contraste, Aaron déçoit. Or, Aaron n'est pas n'importe qui. C'est le premier grand prêtre de l'Alliance, ce qui fait dire à un spécialiste de l'Ancien Testament que notre passage annonce la faillite du sacerdoce aaronique dès sa création. Et si vous n'êtes pas suffisamment déprimé en entendant ma petite liste de soucis, et là je restais vraiment dans le texte, poursuivez la lecture du Pentateuque et constatez que même Moïse, même lui, dont l'intimité avec Dieu et l'intercession passionnée ont fait une différence incontestable en Exode 32 à 34, même lui n'entrera pas dans le pays promis à cause d'une faute regrettable. Vous avez compris qu'il nous faut absolument une nouvelle alliance. Quand vient le temps de relire Exode 32 à 34 à la lumière de la nouvelle alliance, il me semble utile de commencer par ce qui est un peu plus simple et de terminer par ce qui l'est moins, en espérant que mon intervention ne s'achèvera pas dans une confusion totale. Alors, ce qui, à mes yeux, est plus évident, tout en étant incroyablement glorieux, c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension objective de la Nouvelle Alliance, les faits sur lesquels repose notre salut en Jésus-Christ. Ce qui l'est moins, c'est sa dimension subjective, c'est-à-dire notre expérience en tant que participant à la Nouvelle Alliance, et donc la comparaison à opérer entre nous et les Israélites. Quelques mots sur la dimension objective de la Nouvelle Alliance, autour de la personne et de l'œuvre de Christ. Quelques faits glorieux de la Nouvelle Alliance, vous les connaissez bien. Premier fait, Jésus-Christ est la révélation suprême de la gloire de Dieu. Dans le prologue de l'évangile de Jean, les allusions à Exode 33 et 34 abondent. Christ est le nouveau tabernacle, la parole divine qui a fait sa demeure parmi nous, Jean 1, 14. Selon Jean, personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1, 18. Mais la parole est venue et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Ça vous dit quelque chose? Fais-moi voir ta gloire. En Jean 14, 9, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et cette gloire de la parole était pleine de grâce et de vérité, Jean 1, 14, ce qui renvoie au caractère de Dieu. Il y a allusion à l'Exode, à notre texte. Deuxième fait, Jésus-Christ est l'intercesseur parfait, le nouveau Moïse, le médiateur par excellence. Imaginez, Moïse dit à Dieu à plusieurs reprises que lui, Moïse, a obtenu la faveur de Dieu et Dieu confirme tout cela en Exode 33, 17. Eh bien, à combien plus forte raison Christ plaît à Dieu et a obtenu sa faveur. Lors de la transfiguration, le Père déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et d'après l'Épître aux Hébreux, Jésus est supérieur à Moïse. Un troisième fait, Jésus-Christ est le grand prêtre parfait, le nouvel Aaron, et nous en avons bien besoin. Hébreux 7, 26, Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Quatrième fait, Jésus-Christ a expié nos fautes. Je lis le verset suivant en Hébreux 7, verset 27. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même, l'expiation est accomplie. Cinquième fait, à la croix, grâce et justice s'embrassent. Le texte de Romains 3, 21 à 26 nous explique ce qui était resté obscur à l'époque de Moïse. D'après Exode 34, 6 et 7, Dieu fait grâce, mais en même temps, il ne tient pas le coupable pour innocent. Comment concilier ces deux réalités ? L'équation est résolue à la croix. Il nous fait grâce tout en montrant sa justice en punissant son fils innocent à notre place. Maintenant, la dimension subjective. Je termine avec notre expérience dans cette nouvelle alliance. Et la question clé ici, c'est dans quelle mesure pouvons-nous, en tant que chrétiens, nous identifier aux Israélites d'Exode 32 à 34 ? À mon sens, il n'y a pas de réponse toute simple à cette question, mais plutôt des éléments de continuité et des éléments de discontinuité, des différences entre les Israélites du désert et l'Église d'aujourd'hui. Certes, la continuité est frappante et touchante. Considérons par exemple la séquence des événements dans l'Exode, la libération de l'Égypte, donc le salut précède l'établissement de l'Alliance et le don de la loi qui s'inscrit dans cette Alliance. Donc d'abord le salut, puis les exigences et les obligations de la loi. Donc c'est un peuple libéré qui s'est rebellé en Exode 32. En Jésus-Christ, la séquence est la même. D'abord, il nous sauve, puis il nous appelle à marcher d'une certaine manière. Un autre parallèle, comme les Israélites étaient les bénéficiaires privilégiés de la révélation divine et avaient donc une grande responsabilité, ce qui accentue la gravité de leur rébellion au chapitre 32, nous sommes au bénéfice d'une révélation encore plus profonde et complète et nous devons par conséquent avouer que lorsque nous péchons, nous le faisons en toute connaissance de cause. Avec les grands privilèges viennent les grandes responsabilités. Enfin, l'habitation de Dieu parmi son peuple a un objectif missionnaire dans l'Exode. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs cet argument que Moïse a utilisé. Or, si Dieu habite en nous par son esprit, d'après Actes 1, 8, c'est pour que nous soyons les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez le lien, présence de Dieu, mission, continuité dans notre expérience. Vraiment, on pourrait en rester à la continuité tellement elle est forte. Mes frères et sœurs, j'espère qu'en méditant ces chapitres, vous êtes aussi frappés par la discontinuité, par la différence qui existe entre notre expérience et la leur, et par la supériorité de ce que Christ nous accorde au quotidien. Dans notre texte, Dieu accepte d'habiter au milieu du camp des tribus d'Israël dans une tente dans laquelle certains seulement peuvent entrer à certains moments, à certaines conditions. L'idée prédominante ici, c'est celle d'une distance. Malgré la proximité finalement consentie, qui fut difficile à obtenir car Dieu est saint, il reste une distance. Mais pas pour nous. Pas pour nous. L'Église de Jésus-Christ est le nouveau temple de Dieu. Et chaque chrétien, chaque chrétienne par extension, est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. En 2 Corinthiens 3 et 4, Paul fait référence au voile que portait Moïse. Eh bien, en Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de voile. Nous avons un libre accès, 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui le visage découvert, plus de voile, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Enfin, les Israélites ont la nuque raide. Et c'était aussi notre cas. C'était notre cas au passé. D'ailleurs, notre texte est parfois repris dans le Nouveau Testament pour décrire les non-chrétiens. En Actes 7, 51, Étienne accuse ses persécuteurs d'être comme les Israélites d'Exode 32. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. » Texte encore plus connu, en Romains chapitre 1, Paul fait sans doute allusion à l'épisode du veau d'or. quand il décrit toute l'humanité déchue, juifs et non-juifs. D'après Romains 1, 23, les hommes ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 25 de Romains 1, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Allusion en Romains 1 à notre passage. Mes frères et sœurs, le Nouveau Testament est clair. Notre nuque raide, elle s'est déraidie en Jésus-Christ. En vertu de notre union avec lui, le nouvel Adam, nous sommes devenus des hommes et des femmes nouveaux qui appartiennent à une nouvelle humanité et qui ont reçu un nouveau cœur. Alors oui, je sais, notre texte est aussi cité dans le Nouveau Testament pour avertir les chrétiens, c'est vrai. En 1 Corinthiens 10, verset 7, Paul nous exhorte à ne pas devenir idolâtres comme les Israélites d'Exode 32. Mais l'idée ici, me semble-t-il, très courante dans le Nouveau Testament, c'est la suivante. Maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous avez reçu un nouveau cœur, une nouvelle identité, ne revenez pas en arrière. Ne faites pas comme avant. Ce serait marcher contre nature. Ou pour être plus précis, contre nouvelle nature ou contre nouvelle création en Jésus-Christ. Vivez plutôt selon votre nouvelle identité en Christ. Autrement dit, oui, la rébellion des Israélites peut nous avertir, 1 Corinthiens 10, mais elle ne peut pas nous rassurer ou nous conforter dans le compromis, sous prétexte qu'au fond, on n'est pas meilleur qu'eux. C'est vrai. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Mais là n'est pas la question. Christ est supérieur à Aaron. Et il est même supérieur à Moïse. Et il a établi son habitation permanente en nous par l'Esprit. Voilà pourquoi, bien que nous puissions nous attendre à des tentations, nous pouvons aussi nous attendre à des victoires et à une transformation progressive, à une sanctification en Christ. Notre texte me donne envie de cultiver quatre attitudes. La reconnaissance. Merci Seigneur pour le triomphe de ta grâce en Jésus-Christ. L'intimité avec Dieu et la dépendance. L'Esprit habite en moi en permanence. Est-ce que j'en profite? Est-ce que je fais appel à sa présence, à son secours? Troisième attitude, la vigilance. Quelles sont les fragilités dans ma vie qui pourraient me faire sombrer dans l'idolâtrie? Et quatrième attitude, le témoignage. Le témoignage. Dieu nous procure sa présence pour que nous la proposions aux gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore l'Éternel. Prions. Père céleste, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ta compassion, ta bienveillance, ta bonté. Merci pour le pardon obtenu en Jésus-Christ et pour ta présence au milieu de nous et en nous par l'Esprit. Que nous puissions vivre cette présence en Église et individuellement. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen.